Alors, il se heurte dans le domaine de la politique ecclésiastique à l'empereur, qui cherche à contrôler aussi religieusement l'Afrique et l'Illyrie, donc les régions qui avaient été reconquises par les Byzantins. Et du coup, les Byzantins se disent, bah, puisque nous avons reconquis ça, bah, on va faire passer les évêchés sous le contrôle du patriarche de Constantinople. Et ça, Grégoire s'y oppose. Il y a eu des batailles pendant le Haut Moyen Âge pour le contrôle de l'Illyrie, enfin de la côte d'Annemate, le contrôle ecclésiastique, hein, de savoir si ça passait à Constantinople ou à Rome. Même chose pour la Bulgarie, qui à peine convertie a été pétrinienne, enfin romaine. Puis ensuite, elle est passée, devenue byzantine. Ils se sont, comment dire, écharpés pour savoir qui devait contrôler ces régions, enfin religieusement. Alors, en revanche, ils s'entendent très bien avec l'Espagne wisigothique, car le roi Récared s'était converti depuis peu. Demande si c'est pas lui qui avait fait tuer son fils à l'époque où il était encore païen. Et le fils saint
Herménégilde.
Herménégilde est mort avec. Enfin, ça a tellement touché son père, alors que le père s'est converti, ou alors c'est son frère qui s'est converti, qui lui a succédé. Enfin, une histoire de ce genre. En tout cas, la dynastie est passée de l'arianisme au catholicisme à cause du martyre de ce jeune homme, saint Herménégilde. Et puis, il s'entend avec la Gaule franque, avec les successeurs
Du Clovis.
de Clovis. Et grâce à Théodolinde, princesse bavaroise catholique, il va faciliter la conversion des Lombards. Donc, il se défendait contre les Lombards, mais on peut dire le cheval de Troie de Grégoire, c'est Théodolinde. Et j'espère qu'elle ne ressemblait pas à un cheval, mais en tout cas, elle a réussi à convertir le roi des Lombards, qui est devenu, ben voilà, qui est devenu catholique. Là aussi, les Lombards, eux, ils étaient païens d'origine, en fait. Une chose qui est vraiment importante, c'est de noter, quand on dit que les femmes ne comptent pas dans l'Église, en fait, elles ont eu un rôle capital dans le Haut Moyen Âge. À cause du système matrilinéaire des tribus germaniques. En fait, c'est les femmes qui avaient le pouvoir. Les hommes, ils avaient des cheveux. Et tant qu'ils avaient des cheveux, ils avaient le pouvoir militaire. Hein. C'était. Voilà. Des cheveux. Parce que le génie, le genius, là, la fama, en allemand, je sais plus, j'ai oublié le terme. Eh bien, ça résidait dans le fait d'avoir des cheveux. Ce qui n'était pas idiot. Quand vous avez des cheveux, en général, vous êtes fort. Quand vous les perdez, on est un peu moins fort. Hein. C'est censé. C'est de l'aspect.
On s'en va, on s'en va. Merci.
Alors, c'est de la spiritualité.
C'est extrêmement désagréable.
C'est de la spiritualité, disons, un peu pragmatique. Mais ça explique aussi que qu'au Moyen Âge, on envoyait, quand on voulait se
Non,
débarrasser
on coupait les
d'un
cheveux,
cousin,
on envoyait au couvent.
voilà, quand on était devenu des chrétiens du Haut Moyen Âge quand même, hein, et qu'on voulait se débarrasser du cousin, de l'oncle ou de qui régnait, qu'on prétendait avoir plus de droits que lui, on le rasait, on l'envoyait au monastère, parce que les moines étaient rasés. Sauf qu'on les rasait si bien qu'en fait, on les scalpait pour être bien sûr que ça repousse pas. Et donc, ça devait être assez catastrophique pour celui qui était envoyé au monastère. C'est Michel Rouche, là, le professeur Rouche, qui nous expliquait ça. Oui, c'est ça. Donc, on les quasi scalpait pour être sûr que les cheveux ne repoussent pas. Et du coup, il était moine pour le reste du temps qui lui restait à vivre. Voilà. Et alors, donc, les femmes avaient un rôle fondamental. parce que en fait elles avaient un ascendant considérable dans la tradition germanique.
La peine d'un point imparfait pour les femmes.
Voilà, de toute manière, qui est resté. C'est notre côté germanique de notre qui est resté. Alors donc, elles avaient un ascendant considérable, et en fait, elles ont contribué quasiment toutes les conversions de peuples peuple germaniques sont passées par des femmes, des épouses royales. Clotilde, Théodolinde, alors donc Clotilde qui était burgonde, catholique, Théodolinde qui était bavaroise mais catholique, et celle une carolingienne qui a dont j'ai oublié le prénom le nom, et qui a converti le principal roi des Saxons en Angleterre. Donc c'est par elle que le roi, donc, et puis c'est Leude, son passe, ou Jarl, chez les Norvégiens. Vous savez, Jarl, c'est le mot qui donnera Earl en anglais, hein, c'est comte. Hein. C'est par là que c'est par les femmes donc, que les peuples germaniques se sont convertis. Son œuvre, je remonte un peu, je reviens à ce que je disais. La conversion des Lombards. Ils s'opposent. Alors les Lombards qui régnaient à Pavie, hein, qui était longtemps la capitale du royaume de Lombardie et qui avait pour emblème la couronne de fer, qui est conservée à Monza. Qui était le palais justement de la reine. Il s'oppose à ce que le patriarche de Constantinople porte le titre d'œcuménique. Aujourd'hui, il le porte, hein, mais donc à l'époque, il ne le portait pas. Mais vous savez que les patriarches de Constantinople grattaient comme ça. Il grignotait le pouvoir. Hein. Il obtient que Rome reste la juridiction d'appel de l'Orient, hein, c'est-à-dire que les autres patriarches, etc., que tout évêque puisse faire appel à Rome par-dessus la tête du patriarche de Constantinople. Et on sait aussi que c'est le premier pape à avoir été moine. Un grand admirateur de saint Benoît, dont il se fait le propagateur zélé de la spiritualité. Il sera le propagateur du monachisme en Occident. Oui, oui, justement, en organisant la Schola Cantorum à Rome. On dit le chant grégorien, c'est peut-être pas Grégoire qui a écrit les partitions. Enfin, il n'y avait pas vraiment de partitions. En tout cas, c'est lui qui a permis que ce chant se développe à cause de l'organisation du corps des chantres. Et puis, il favorise donc la propagation de l'esprit de saint Benoît et de sa règle grâce à ses dialogues. Les dialogues sont. Dans ces dialogues, il y a l'histoire de saint Benoît. Donc. Grégoire a fait pour saint Benoît ce que Athanase avait fait pour saint Antoine. Si le sacramentaire, alors vous savez qu'on a des sacramentaires à l'époque où on n'avait pas de missel, dans le missel il y a tout. Mais avec la réforme liturgique, d'ailleurs, vous vous rendez compte qu'on a même deux livres, à vrai dire. On a le missel qui est un sacramentaire, à vrai dire, un peu développé, et on a un lectionnaire. Donc, à l'époque, rien n'était centralisé. Les chantres avaient, en gros, des partitions. C'était l'antiphonaire, etc. Les lecteurs, qui étaient dans leurs ambons à 2 mètres, 3 mètres du sol, 4 mètres, ou je ne sais quoi, au sommet de leur colonne torsadée, eux, ils avaient des lectionnaires. Et le prêtre qui était sous son ciborium, là, à son hôtel au-dessus de la confession, il avait son sacramentaire, où il avait ses oraisons et ses préfaces. les lecteurs, les diacres, ils avaient leur lecture, et les chantres avaient leur, voilà, en gros, leur partition. Et donc, on a plusieurs sacramentaires anciens qui nous sont parvenus, dont le sacramentaire grégorien. Il y a aussi le Léonien, je crois, puis Louis XIII, troisième, celui de Vérone, il me semble. Et le sacramentaire grégorien est une compilation plus tardive, mais qui se base sur les oraisons qui avaient déjà cours à Rome à l'époque de Saint Grégoire. Alors, Grégoire, on est à peu près certain, a introduit un certain nombre de modifications dans la liturgie et il s'est occupé de musique, hein, même si le sacramentaire dit grégorien n'est pas de sa main. Alors, il est également un moine soucieux d'évangéliser. Vous vous souvenez que les moines sont des grands évangélisateurs. Hein. Les moines d'Irlande vont réévangéliser l'Europe, dévastée par les barbares. Les moines qui vont surgir de cette réévangélisation vont évangéliser la Germanie, puis les pays slaves, les peuples slaves. Son souci de l'évangélisation, lui, s'est porté vers l'Angleterre. Ayant remarqué des esclaves venus d'Angleterre et vendus au marché, il voulut s'y rendre pour évangéliser, avant même d'être pape, à l'époque où il était haut fonctionnaire. Et devenu pape, il enverra une mission de moine en 596, avec à sa tête un moine d'ailleurs, qui s'appelle Augustin, Saint Augustin, dit de Canterbury, puisque le roi Ethelbert, si je ne me trompe, de Kent, avait sa cour, sa capitale à Canterbury. Et donc, Canterbury, hein, ça a un rapport avec Kent. Donc, c'est vrai que finalement, le Kent, hein, c'est ce qu'il y a de plus proche de la France. Ils font même du vin. On boit du vin de Kent. Hein, c'est conditionné dans des petites bouteilles parce qu'ils ne doivent pas en produire beaucoup. Mais c'est un vin blanc qui n'est pas mauvais. Enfin, voilà. Donc, le roi Ethelbert, finalement, reçoit cette mission et il trouve, justement, auprès de lui, une ambassadrice, une avocate de la cause de ces moines qui viennent de débarquer, qui est justement la reine, issue de la noblesse mérovingienne. Donc catholique. Et finalement, ces Angles vont se convertir et le royaume de Kent sera le premier royaume anglais à devenir catholique. Après, il y aura les Saxons qui vont arriver, puis les Normands, les Norvégiens, etc. Parfois, le catholicisme reculera à cause justement des nouveaux barbares germaniques ou scandinaves païens, mais le catholicisme ne sera plus simplement l'affaire des Celtes refoulés aux extrémités des îles, comme d'ailleurs qui avaient des traditions très différentes des traditions romaines, si bien que plus tard, dans les siècles qui suivront, il y aura un véritable antagoniste, non plus ethnique, entre Celtes et Germaniques, mais religieux, parce que finalement les Anglais seront beaucoup plus romains que les Irlandais et que les autres Gallois, et Écossais, etc. Et finalement, comme ils seront aussi plus organisés, plus cultivés, ils vont finir par s'imposer aux Celtes. Voilà. Alors l'œuvre de Saint Grégoire, c'est une œuvre pour un homme à la santé chancelante. C'est une œuvre multiple, hein, à la fois, préfet de police, préfet de, préfet de la ville et on pourrait dire gouverneur militaire des Invalides, pour, enfin du moins préfet militaire pour la pour Rome. En même temps, le premier à fédérer tous les évêques d'Italie, vraiment. En même temps, administrateur de tous les territoires du Saint-Siège qui ne sont pas encore politiquement les États pontificaux, mais qui sont juste des possessions. Celui qui va convertir, qui va pousser à la conversion le nouveau peuple germanique, comment dire, dominant d'Italie, qui sont les Lombards, qui va ensuite pousser à la conversion les Angles, qui vont être le fer de lance de la. L'évangélisation catholique de l'Angleterre, des îles britanniques, en même temps l'appui apporté à la conversion au catholicisme de l'aristocratie visigothique d'Espagne et le soutien au développement du monachisme qui fait un peu l'unité de tout ce monde germanique pour la couche d'huile domine au-dessus, et puis celte, gallo, romain, etc. En dessous de tous les autres peuples d'Occident. Alors, et il a trouvé aussi le moyen d'être un auteur prolifique en matière théologique. Son œuvre est assez considérable, reflétant la pensée de saint Augustin, hein, qui est vraiment son maître théologique, et ça lui vaudra de devenir docteur de l'Église. Voilà, c'est un des quatre docteurs de l'Église d'Occident, avec donc saint Ambroise, saint Augustin et saint Jérôme. Alors, un de ses ouvrages les plus connus, ce sont les Moralia in Job. Donc, c'est Morale sur Job. Ce sont des conférences. Hein, vous savez, les conférences, un peu comme Saint Jean Cassien qui avait donné des conférences. Conférences données à la communauté monastique où il vivait à Constantinople. Quand il était apocrisiaire à Constantinople, il vivait dans un monastère. Et là, bah finalement, comme on s'était rendu compte qu'il était intelligent, etc., on lui avait demandé de faire des conférences pour l'édification de la communauté monastique. Et alors, ces conférences vont être revues et éditées en 35 livres, entre 579 et 600. Alors, il part des trois sens de l'écriture. Donc, vous savez, il y a toujours le sens... le sens littéral, puis après il y a les trois sens spirituels, mais il va surtout développer le sens moral, moins le sens dogmatique ou allégorique ou le sens eschatologique, mais plus le sens moral, d'où le titre donné à l'ensemble de l'ouvrage. Alors Grégoire, Job est un homme, mais en fait, il représente le Christ et l'Église, ainsi que tout homme marqué par la souffrance.